Tout le monde veut prendre sa place. Bonjour. Anthony Clément, on se connaît.
Bien, bonjour.
Et donc
Lilou.
Lilou.
Oui.
Alors,
bonjour,
ça tombe super bien.
Yanis.
Lilou bonjour. En stage, bonjour. Yanis en stage. Stage Radio MDM pour Yanis et Lilou à caractère. Et donc, on fait quoi? On fait un battle? Ça se passe comment?
Avec la machine à laver, c'est bien.
Ce moment nous est offert par notre partenaire Electrolux.
Est-ce qu'on commence par un café?
Alors, si en plus on a une marque de café qui peut aussi nous sponsoriser, on va se gaver.
MDM, tout un monde.
J'ai lu un livre une fois, ça m'a rien fait.
Et cette même personne m'a dit que j'étais un illettré, qui veut dire homme de lettres, en italien.
Alors, la gueuse de Camus, la vilaine de Camus, la peste de Camus, la mégère de Camus.
Réponse D, la mégère.
Et donc on disait quoi? Cuticule.
Ça veut dire quoi? C'est un livre sur le rapport entre les femmes et les animaux.
Ça veut dire exactement ce que ça veut dire. C'est un livre qui parle du rapport qui peut exister entre un animal d'une part et une femme d'autre part.
Vous avez vraiment une écriture. Pourquoi vivez-vous comme un clochard?
Mais je suis un clochard. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Vous voulez que je chante les souffrances de la grande bourgeoisie? Connerie.
Ça vous surprendra sans doute, mais elle souffre aussi.
Oh. Doucement, petite. Personne ne souffre autant que les pauvres.
Je ferme la porte pour éviter les bruits parasites. Qui disait ça? Est-ce que c'était Aldous Huxley ou Anthony Clément? Je pose la question. Bonjour Anthony Clément.
Il semble que c'est de moi. Bonjour Anthony.
Il y a battle de stagiaires aujourd'hui. Oui. Yanis Creed qui est avec nous. Bonjour Yanis.
Bonjour tout le monde.
Et Lilou qui va nous rejoindre, qui est chez vous, qui est dans les métiers du livre, qui va tuer le père, qui va vous chasser de votre piédestal.
C'est pas du tout le but, mais en tout cas, c'est de voir toutes les facettes du métier. Et une des facettes du métier, évidemment, c'est de transmettre par les ondes, pour le coup, nos coups de cœur et nos tendances littéraires.
On va la retrouver dans la deuxième partie de notre rendez-vous. Avant ça, c'est d'abord montrer qui est le patron. Anthony Clément, deux livres à la main.
Deux livres. Je vais commencer par une petite anecdote. C'est assez rare que je rêve des livres que je lis.
Alors, vous ne rêvez pas ou vous ne rêvez plus?
J'en ai même rêvé, j'en ai fini la lecture de Croire aux fauves de Nastasia Martin, je ne sais pas si je le prononce très bien, N-A-S-T-A-2-S-I-A, Nastasia Martin, anthropologue. J'ai rêvé d'ours, j'ai rêvé de peuples autochtones, j'ai rêvé de contrées éloignées, notamment dans le sud-est de la Russie, le Kamtchatka. Nous sommes en août 2015, un après-midi, nous sommes sur les pentes d'un volcan, elle est en train de gravir un des plus hauts volcans du Kamtchatka.
C'était un récit réel.
C'est un récit réel. En fait, Nastasia Martin est anthropologue. Elle a écrit plusieurs ouvrages, notamment aux éditions, merveilleuses éditions de La Découverte. Et là, en fait, elle a décidé aussi d'arrêter de cantonner l'anthropologie dans ses cénacles, dans ses sphères, un peu haute ou hautaine de temps en temps. Mais en tout cas, voilà, elle mêle anthropologie et littérature. Elle mêle aussi expérience personnelle et littérature, donc anthropologie et littérature. Et là, comme je vous le dis, août 2015, sur les pentes d'un volcan, elle décide de s'éloigner un petit peu des deux personnes qui l'accompagnent. Elle a besoin, c'est une anthropologue un peu effrontée, un peu solitaire, un peu guerrière, et elle avait besoin un peu de se ressourcer. Donc elle prend ses distances, ils sont un peu lents, elle a décidé d'aller un peu plus vite. Elle finit sans témoin dans la gueule d'un ours, pour le coup, se fait arracher un bout de mâchoire, un zygomatique ou une zygomatique.
J'ai lu, c'est bien dégueu. Ouais.
Voilà, oui, c'est assez dégueu pour le coup. Mais c'est jamais voyeur non plus. Ce sera le récit de cette expérience, une expérience ambiguë dans le Kamchatka, comme je le disais, avec des instances russes qui dominent tout ça. Elle se fait vraiment agresser.
Ça me rappelle les parties de risque.
Une chance pour elle, c'est d'être en train de gravir donc, ce volcan, d'avoir un piolet. Elle lui foutra un coup de piolet dans les pattes, ce qui fait que la bête va s'enfuir. Mais elle aura été pour moitié défigurée. Voilà. Ensuite, s'ensuit tout le récit. Notamment une guerre encore froide, hospitalière, franco-russe, puisque au tout début, elle va être dans un dispensaire russe, avec une infirmière qui a des vues sur le médecin, et le médecin ne la calcule pas, elle va pratiquement se venger sur Nastasia Martin pour les premiers soins. Donc c'est vraiment un récit haletant, prenant, difficile, mais ensuite, voilà, ce qui va être très très intéressant, très étrange en même temps, ce qui va, créer un peu d'ambiguïté, un peu d'angoisse, un peu de malaise, c'est-à-dire qu'elle mêle justement le récit de l'anthropologie à la littérature et va comment dire, traverser aussi la frontière entre l'homme et l'animalité, entre la femme et l'animalité, puisqu'elle se retrouve à croiser ce regard de l'ours et à interroger aussi la part de l'ours en elle, cet affrontement, ce rapprochement physique, le fait qu'elle est sur son territoire. Bon, je ne suis pas anthropologue, je ne peux pas vous dire, mais c'est quand même un territoire évidemment peuplé d'espèces endémiques. On y trouve les macareux jusqu'aux ours, jusqu'aux orques, voilà. Bref, et c'est bluffant. Moi, j'en ai véritablement eu des sueurs froides de la nuit, pour le coup, parce que le récit, voilà, mêle ce récit d'expérience qui est vraiment celui de l'écriture anthropologique, et en même temps, la littérature qui fait qu'on se met à la place de, on vit l'expérience de Nastasia Martin, on va tout faire pour la faire venir, et pour que nos publics, nos lecteurs, nos lectrices puissent échanger avec elle. Voilà, donc j'invite tout le monde, il est passé en poche aux éditions Folio, voilà, j'invite vraiment sur l'été à se nourrir d'expériences comme la sienne, ça s'appelle Croire aux fauves. Voilà, elle casse les frontières pour justement respecter encore davantage notre environnement, nos milieux, nos écosystèmes, les animaux qui les peuplent, et réamorcer évidemment un équilibre vers la proximité avec tout ça. C'est très très étonnant. En fait, elle dit, mais à quel moment on prend le parti, le regard de l'ours pour le coup? À quel moment on interroge son milieu, le fait que je suis rentré sur son milieu, le fait évidemment que voilà, il s'est rapproché de moi avec la pensée qui est la sienne. Enfin, voilà, très très impressionnant.
Nastasia Martin, Croire aux fauves, la femme qui a vu l'ours, ça c'est en poche. L'autre, on passe du Kinshasa au Québec.
On est avec un ancien prof de littérature universitaire, elle était éducatrice, donc ils sont à la retraite, ils décident de prendre un temps pour eux, de quitter un peu la ville et de se réfugier, ça s'appelle Le Refuge, prix France-Québec 2023, donc ils décident d'être dans une cabane plus, en bord de forêt, en bord de lac.
C'est des retraités.
Ensemble, voilà, de cultiver son potager, d'être plus proche de
la pêche.
Bref. Sauf qu'ils reçoivent quelques personnes, notamment un jeune homme avec qui ils apprécient, qui est aussi un primo-romancier, voilà, qui ils échangent régulièrement. Sauf que lui, il a d'autres relations, et une relation qui va venir en pleine nuit, accompagnée d'un autre homme, donc deux hommes, et qui vont décider de les dépouiller du peu d'argent qu'ils ont liquide dans leur cabane. Voilà, un petit coup de batte va tomber sur la tête de la femme. Le mari est totalement effaré de la situation. Et en fait, quand ils s'en vont avec le maigre butin qu'ils ont chopé en pleine nuit, le mari chope le fusil qu'il n'avait pas pu récupérer au départ et tire dans le dos d'un des hommes. Voilà, ça c'est le début de l'histoire. Qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Est-ce qu'on se dénonce? Est-ce qu'on se dénonce pas?
On balance le cadavre.
Ça arrive assez vite, se dénonce
pas. Des lacs profonds, voilà, des montagnes.
Le cadavre va être assez vite enfoui dans la propriété.
Ouais.
Voilà, mais comment on vit avec ça?
Comment on vit avec le secret?
Ce qui est très intéressant, des personnes tout à fait honorables, qui ont une vie honorable, qui ont eu des relations tout à fait bienveillantes, comment on fait pour cacher, pour vivre avec un secret comme celui-ci? Et ce qui est très intéressant, d'où l'ambiguïté comme chez Nastasia Martin, c'est-à-dire que là, on a d'abord le récit du mari, puis très vite, en fin de chapitre, à chaque fois, le récit de sa femme qui vient compléter, nuancer, agrémenter un petit peu le malaise, justement. Et donc ça, jusqu'à la fin, mais je ne peux pas raconter.
C'est quoi l'histoire, en fait? Bien qu'on soit marié depuis 40 ans, on pense d'abord à sauver son cul? Il y a un truc comme ça?
Ouais, on pense d'abord à sauver son cul, mais malgré tout, à l'intérieur, elle était contre cette arme, et elle était contre ce geste, mais elle était évidemment dans les vapes, après avoir pris un petit coup de batte, pour le coup. Ouais. Et donc, c'est comment aussi ça creuse, fissure, met à mal le couple, après tant d'années ensemble, et justement sur des décisions qui n'étaient pas la sienne. Mais en même temps, quoi faire? Donc voilà, c'est vraiment le roman pour l'été, pas du tout naïf, pas du tout facile non plus dans l'écriture. Non, on va creuser, avec un fait divers comme celui-ci, la relation de couple et la relation aussi la société au mensonge, à sa place dans la société, qu'on remet en question avec des situations terribles de ce genre.
Alain Beaulieu, le refuge chez Yana Lévy et Nastasia Martin, Croire aux fauves, en édition poche. Merci Anthony Clément.
Voilà.
On marque une petite pause musicale avec du super son, mais je sais pas quoi encore, et on se retrouve ensuite avec Lilou pour parler littérature.
Thank you.
Seconde partie de nos rendez-vous littéraires avec un feat, avec peut-être un one-shot. Lilou, bonjour.
Bonjour.
Lilou, chroniqueuse littéraire d'une matinée ou d'une après-midi. Lilou qui arrive d'où ?
De Montsouris.
De Montsouris. Ah, bienvenue en Chalosse.
Ouais. Merci.
Ouais, ça va, quasiment à domicile. Lilou, étudiante ?
En métier du livre, à l'IUT Bordeaux-Montaigne, en seconde année.
Qu'est-ce qui a créé cette vocation ? Est-ce que c'en est une d'ailleurs ?
Oui, une passion de la littérature depuis toute petite, grâce à ma mère notamment, qui m'a fait vraiment aimer les livres depuis très jeune.
Donc j'imagine Montsouris, Saint-Sevé, La Louve, caractère Mont-de-Marsan, j'ai bon ?
Ouais, tout à fait, c'est ça. Ouais.
Pour 3 semaines présente, c'est ça ?
3 semaines, oui, j'ai bientôt terminé là.
On cause bouquin ? Panorama
de Lilia Hassen, qui est autrice, mais également chroniqueuse, ancienne chroniqueuse chez Quotidien et journaliste. Donc elle publie Panorama pendant la rentrée littéraire de 2023 chez Gallimard. C'est la collection La Blanche.
Prix Renaudot des lycéens l'an dernier, toujours un petit peu classifié. Est-ce qu'on peut parler de science-fiction ?
On peut en parler, mais l'histoire se passe en 2049, donc on est quand même assez rapproché de notre époque aujourd'hui. Ouais. Et y a pas
de l'anticipation non plus.
Si. On peut dire que c'est une littérature d'anticipation, mais dans un monde qui est vraiment assez rapproché avec le nôtre et sans grande invention technologique comme d'autres auteurs.
Il n'y a pas eu de bouleversement ou une nouvelle révolution
Il y a eu une révolution, mais il n'y a pas beaucoup de changements par rapport à notre époque. À part une architecture différente qui est le cœur de cette histoire. En fait, après une grande révolution dans les années 2020, le peuple devient souverain en fait de la société française. Il n'y a plus du tout de gouvernants, donc c'est une sorte de dystopie.
C'est intéressant à lire par les temps qui courent.
Oui.
Non, intéressant, je ne sais pas si c'est le mot qui convient.
Non, mais c'est vraiment un titre très très actuel avec tout ce qu'on voit aujourd'hui. Et donc, à la suite d'une révolution où le peuple a jugé que la justice n'était pas assez compétente quant aux criminels, il y a un bouleversement et le peuple décide de faire justice soi-même en fait quant aux personnes qui leur auraient fait du mal, des agressions, etc., les gens vont se venger eux-mêmes, sans avoir de la justice derrière eux ensuite. Et donc...
Je suis pas sûr que le mot intéressant, effectivement, soit approprié.
Et donc, à la suite donc, de cette grande révolution, le peuple devient souverain, il n'y a plus du tout de gouvernant, et un architecte est engagé pour venir refaire complètement le pays français en créant des maisons complètement transparentes, à part avec donc les parois de douche qui sont floutées, etc., et des lits sarcophages, on appelle ça comme ça, pour permettre aux gens de se cacher, mais c'est tout. Donc on est vraiment dans une civilisation où tout le monde s'observe, c'est la vie en collectivité, en fait, vraiment comme on l'entend. Tous les voisins veillent les uns sur les autres.
Là, effectivement, on est de nos jours, on n'est pas en 2049.
Ouais. Non, mais exactement, et c'est la seule chose qui change, en fait. Les maisons telles qu'on les connaît aujourd'hui, en béton, tout ça, ça n'existe plus. Pour vraiment permettre à la criminalité de baisser, mais donc à quel prix ? Parce que, on n'a plus d'intimité du tout, et si les gens cherchent à avoir cette intimité, on les suspecte, en fait.
Ouais. C'est une société parano où on fait justice soi-même, la loi du talion.
Exactement, et en fait, si donc, on assiste à de la criminalité, s'il y a des agressions sexuelles, des violences conjugales, c'est le peuple qui décide du sort du criminel. Dans cet environnement-là, une famille va disparaître. Donc les parents et leur fils de 8 ans. Mais personne n'a rien vu. Les voisins les plus proches n'ont rien vu et vraiment la famille a disparu complètement. Les caméras de surveillance n'ont rien signalé non plus. Et donc la narratrice de ce livre est en fait l'enquêtrice, ce qui nous permet d'être encore plus plongés dans ce livre parce que vraiment on voit toute l'histoire, toute l'enquête à travers elle. Donc on a tous les détails, on a aussi les détails de sa vie personnelle, comment elle arrive à vivre dans cette société de transparence en fait. Et donc c'est très intéressant, on est vraiment plongés dans cette histoire de cette baisse de criminalité, mais voilà, vraiment, à quel prix est-ce qu'on est prêt à oublier son intimité pour pouvoir vivre en communauté de cette manière-là. Je pense que c'est vraiment un livre d'actualité qu'il faudrait placer dans les mains des plus jeunes. C'est aussi une critique des réseaux sociaux, en fait, de ce besoin de se montrer, que dissimuler quelque chose, ça veut dire qu'on a quelque chose à cacher, surtout de nos jours, nous. Ouais. Moi, j'ai 19 ans et je suis en plein dedans.
Enfin, c'est tout le monde parle, mais personne ne s'écoute, comme dirait Aurel San, quoi.
Exactement, c'est vraiment une société d'apparence et on a tendance à penser que si quelqu'un ne se montre pas, il a quelque chose à cacher, qu'il veut dissimuler quelque chose.
Tout le monde se juge.
Exactement. Donc, je pense que c'est vraiment un livre d'actualité. priorité qu'il faudrait placer dans toutes les mains et d'autant plus des plus jeunes.
Un panorama par Lilia Hassen. Moi, j'étais très peiné quand elle est partie de Quotidien, ouais. Mais vu ce qu'elle a fait ensuite ou ce qu'elle continue à ou ce qu'elle fait maintenant, c'était une bonne décision en tout cas.
Oui, je suis d'accord. Et il y a là d'ailleurs une chronique où elle parle de son livre dans Quotidien que je vous conseille de regarder parce que c'est très intéressant.
Bon, et vous, quand vous aurez quitté fini votre stage à la librairie Caractère à Mont-de-Marsan ou à la Louve à Saint-Sauvé?
Eh bien déjà, il faut que je finisse ma troisième année, le master, ouais. Et ensuite, je verrai si je décide de me diriger plutôt dans l'édition ou dans la librairie ou dans le commerce, en tant que représentante, par exemple, pour des maisons d'édition. Ouais. Je ne sais pas encore.
Mais il y aura toujours des lettres et des mots.
Il y aura toujours de la littérature, oui, ça c'est sûr.
Merci beaucoup, Lilou.
Oui, merci à vous.
Yannis, on valide ?
Je valide. Moi qui ne lis pas souvent, ça me donne clairement envie de lire. Donc merci Lilou.
Je t'en prie.
Alors, c'est argumenté. On était bien.
C'était très bien. Merci Radio.
Ouais, bah, on va dire match nul pour le battle des stages. Sachant que Yannis, vous avez foutu.